Il est 7h.
Là, aujourd'hui, permettez-moi de vous dire, je suis libre.
Moi, je le garde. Je pense qu'on n'est pas vraiment sorti de la situation. Je pense que c'est un peu tôt.
Ou pas. Désormais, le port du masque n'est plus obligatoire en extérieur. Pour autant, tout le monde n'entend pas s'en séparer. Vous allez l'entendre. Dans une heure, le début de l'épreuve de philo pour les élèves de terminale, grâce au contrôle continu. Beaucoup savent déjà que l'épreuve ne sera pas déterminante. Dans ce journal aussi, l'audience surréaliste de Rémi Daillet avant son incarcération. Les Hauts-de-France au cœur de la campagne pour les régionales aujourd'hui. Et l'arrivée des Bleus hier à Budapest, où ils vont affronter la Hongrie samedi. Juste après ce journal, l'éclairage éco, Nicolas Barré.
1 million d'entreprises créées en France en un an. On va voir ce qui se cache derrière ce chiffre historique.
Le regard international de Vincent Hervouet, l'édito sport, Virginie Fulpin. Et juste avant 7h30, notre rendez-vous d'histoire avec vous, Stéphane Bern. Bonjour.
Oui, bonjour Mathieu, bonjour à tous. Alors c'est vrai, faire ripaille, d'où vient cette expression?
La réponse, je l'ai dit avant 7h30. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous êtes sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal de 7h, c'est le journal de Marion Calais. Bonjour Marion.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Il ne fera plus écran au petit vent frais du matin. On peut donc désormais se passer de masque à l'extérieur. Compte tenu de l'amélioration de la situation sanitaire, la mesure d'abord envisagée pour l'été a été avancée.
Bonjour Caroline Baudry.
Bonjour.
Vous êtes près de la gare Saint-Lazare, à Paris, pour Europe 1, où les voyageurs que vous avez croisés préfèrent rester prudents.
Et oui, c'est assez frappant ce matin. Les habitudes sont bien ancrées sur le parvis de cette gare très fréquentée. La majorité des gens gardent leur masque à l'arrêt de bus juste devant moi. Tout à l'heure, tous lavés. Certains par oubli, d'autres par choix, comme François, 58 ans.
Je pense qu'on n'est pas vraiment sorti de la situation, qu'il risque d'y avoir des rebonds. Je pense que c'est un peu tôt pour se réjouir de la disparition de ce virus. Je pense pas qu'il disparaisse comme ça.
Et puis il y a ceux qui l'ont rangé dans leur poche, accroché à leur coude. Difficile de rater leur sourire. Ce matin-là, Samy l'attend depuis 1 an et demi. C'est la première chose à laquelle il a pensé en se réveillant ce matin.
Là, aujourd'hui, permettez-moi de vous dire, je suis libre. On n'a plus cette sensation d'être en infraction tout le temps. C'est plaisant. Et quand je vais rentrer sur cette porte, là, je dois le porter. Là, c'est obligatoire.
Le masque reste obligatoire dans les transports en commun, les lieux clos et en extérieur, dans certaines circonstances comme les regroupements, les lieux bondés ou les files d'attente.
Étonnant de voir que certains préfèrent le garder encore. Caroline Baudry, vous-même, vous êtes masquée ce matin pour votre direct ?
Non, pas de masque
non.
Pour ce direct.
On a tombé le masque. Caroline Baudry aux abords de la gare Saint-Lazare à Paris en direct.
Dimanche, c'est le couvre-feu qui sera levé. Et si la France sourit, la Russie, elle, sévit. Obligation de vaccination pour les personnels du secteur des services à Moscou et dans sa région.
Après l'annulation des épreuves l'an dernier, un baccalauréat hybride cette année. Si le contrôle continu sera prépondérant, les élèves de terminale vont tout de même devoir plancher, et ce, dès aujourd'hui.
Deux épreuves maintenues, le grand oral et l'écrit de philosophie. Un écrit qui commence dans une heure et pour beaucoup, sans stress, d'autant qu'entre le contrôle continu et la note obtenue ce matin, c'est le meilleur résultat qui sera gardé. Pas de quoi donc se mettre la pression pour Alexia, rencontrée pour Europe 1 par Virginie Riva.
J'ai déjà mon bac parce qu'avec les notes du contrôle continu, j'ai au-dessus de 12 dans la plupart des matières, donc j'ai déjà 11,5-12 de moyenne en philo. Et comme là en philosophie, ils prennent la meilleure de nos deux notes, ça enlève un stress important. Et je trouve qu'ils auraient peut-être pas forcément dû nous le dire avant, parce qu'on est tous pas du tout angoissés.
Voilà, la sérénité donc pour Alexia. Pour ce qui est du grand oral, ce sera à partir de la semaine prochaine.
7h04 sur Europe 1. Et c'est un détenu qui entend faire parler de lui, Rémi Daillet, incarcéré après sa mise en examen hier pour son implication présumée dans l'enlèvement de la petite Mia dans les Vosges. C'était au mois d'avril dernier.
Un placement sous écrou décidé à l'issue d'une audience publique à Nancy devant les juges des libertés et de la détention. Audience transformée par le complotiste en tribune politique sous les yeux de l'envoyé spécial d'Europe 1, Arthur Mbaché.
Costume, cravate, regard complice pour les caméras quand il apparaît dans le box. Et un peu avant 21h, parole à la défense, ou plutôt le discours. Dans la salle, les gens ne savent pas encore que leurs yeux vont bientôt s'écarquiller. Rémi Daillet s'appuie sur la rambarde comme un pupitre politique. L'État français met les enfants en danger, dit celui qui, une heure plus tôt, était donc mis en examen pour avoir organisé, structuré, dirigé, dixit le parquet, le kidnapping de la petite Mia. Je n'ai jamais dit « allez kidnapper un enfant », dit-il. Je dis « prenez vos responsabilités et faites-vous aider au besoin ». Et puis la chose prend donc une tournure politique, échange de regard interrogatif entre magistrats. Vous savez, j'ai le sentiment que c'est la population entière qui est kidnappée et je me pose la question de ma candidature à la prochaine présidentielle. Un peu plus tôt, son avocat avait demandé, en cas d'incarcération, une détention à la prison de la santé au quartier des personnalités. Cette nuit, Rémi Daillé a dormi à la prison de Strasbourg.
Ils jettent leur dernière force dans la bataille J-3 avant le premier tour des élections départementales et régionales.
Et il y aura du monde sur le terrain. Jean Castex attendu aujourd'hui dans trois régions, Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes. L'écologiste Yannick Jadot en Île-de-France. Le patron des Républicains, lui, sera dans les Hauts-de-France, aux côtés de Xavier Bertrand, qui continue de sillonner sa région en quête d'une réélection. Claudia Bertram l'a suivi pour Europe 1.
C'est dans un grand gymnase que Xavier Bertrand a donné rendez-vous à plusieurs dizaines d'élus locaux.
Je voulais vous expliquer de quelle façon on entend continuer à se battre pour vous, à se battre pour les Hauts-de-France.
Micro en main, il détaille ses trois grandes priorités, l'emploi, la santé et la sécurité. Tout un programme pour ne pas laisser la région au Rassemblement national. Dans un récent sondage, Xavier Bertrand est talonné par Sébastien Chenu au premier tour, mais il se veut confiant.
Comment ça se fait que, en 5 ans, le Front National a reculé de 8% et que nous avons progressé de 10%. Il doit y avoir une explication. Peut-être qu'on s'est battu pour les gens, peut-être qu'ils le reconnaissent. Nous sommes les seuls, la seule liste qui peut empêcher le Front National de diriger cette région. Tout le monde sait bien que ce sera nous ou eux.
Et cela pourrait se jouer sur le fil au second tour où il est donné à égalité avec le RN si les listes En Marche et de gauche se maintiennent. Mais Xavier Bertrand l'assure, aucune alliance n'est envisageable.
Ça sera la même liste et le même projet au premier et au deuxième tour.
Surtout, pas question de réclamer l'aide de la majorité présidentielle alors que Xavier Bertrand veut affronter Emmanuel Macron en 2022. Mais pour ça, il doit d'abord être réélu dans sa région. Attiche, Claudia Bertram, Europe 1.
Sa région en première ligne, décidément, ce jeudi, puisqu'Emmanuel Macron y est aussi attendu. Troisième étape de son Tour de France qui le mènera notamment à Villers-Cotterêts dans l'Aisne.
Villers-Cotterêts et son château où François Ier a signé en 1539 l'ordonnance faisant du français la langue officielle du royaume. Le bâtiment fait aujourd'hui l'objet d'une importante restauration en vue d'en faire la cité internationale de la langue française. Ce matin, visite du chantier avec Océane Théard pour Europe 1.
François Ier aurait bien du mal à reconnaître son château. Le bruit des calèches a laissé place au bourdonnement des scies à bois.
Écoutez, on va prendre un peu de hauteur, vous allez voir sur la terrasse.
Au sommet d'un échafaudage, Xavier Bailly, l'administrateur du Centre des Monuments Nationaux, observe le chantier d'en haut.
En fait, le château est totalement emballé. On pourrait se demander s'il n'y a pas eu un artiste qui aurait mis ce château dans une grande boîte d'échafaudage et de bâches. Derrière ces bâches, les toitures ont été démontées, les charpentes ont été démontées, les murs sont mis à vif.
Une fourmilière où se croisent près de 250 ouvriers comme Robin. Perché à 15 mètres du sol sur une des cheminées, ce sculpteur ressuscite l'emblème de François Ier, la salamandre.
On a bien les dents qui sont assez pointues et qui sont effilées vers l'avant. C'est assez nerveux. Elles ont pris tous les intempéries possibles, c'est-à-dire le vent, la pluie, la grêle. Enfin, au niveau trace archéologique, c'est quasiment illisible.
La charpente n'est pas encore terminée, mais les contours de la future cité internationale de la langue française se dessinent. Après avoir servi d'hôpital militaire et d'EHPAD, le château remis à neuf devrait accueillir 200 000 visiteurs par an. Villers-Cotterêts, Océane Théard, Europe 1.
Et à l'occasion de ce déplacement à Villers-Cotterêts notamment, Emmanuel Macron va faire de la lecture une grande cause nationale. L'étonnante consigne de Gérald Darmanin à la police, le ministre de l'Intérieur demande précisément 50 opérations de contrôle dans les quartiers les plus touchés par des rodéos urbains, avec saisie des deux roues impliquées et déclenchement de poursuites pénales.
Enfin, direction Budapest, où l'équipe de France affrontera après-demain la Hongrie pour son deuxième match de l'Euro de football.
Et il va falloir se préparer, car à Budapest, aucune jauge n'a été fixée. Le stade affichera complet, ambiance garantie, comme en témoigne l'envoyé spécial d'Europe 1, Simon Rubin.
Les Bleus ne sont assurément pas préparés à ce qui les attend dans l'antre de la sélection hongroise samedi. Après un an et demi de pandémie, ils vont tous retrouver pour la première fois un stade plein. On ne parle pas de 20 000 personnes comme à Munich, non. Samedi, ils seront 68 000 dans un stade à l'acoustique exceptionnelle. Dans les tribunes, quasiment que des supporters hongrois, évidemment. Et ça donne ça. Des chants incessants pendant tout le match. Sans conteste, Budapest, c'est la plus grosse ambiance de l'Euro. Même les supporters en tribune lors du premier match en Hongrie, comme Norbert, ont été surpris d'une telle énergie.
J'étais surpris qu'avec le Covid, tant de monde se retrouve ici au stade. L'ambiance était géniale. C'est dommage qu'on soit nul, mais 97% du stade, c'était des supporters hongrois. Et c'est ça qui compte.
Alors un tel public peut-il avantager la Hongrie ? D'après les études réalisées, pas du tout. En revanche, et toujours d'après des études récentes, oui, cela pourrait avoir une influence sur l'arbitrage.
Simon Rubin à Budapest pour Europe 1. Notez qu'hier, l'Italie a été la première à décrocher son ticket pour les huitièmes de finale. Victoire face à la Suisse, 3-0.
Merci Marion Calais, impressionnante. L'Italie pour le coup sur ces deux matchs, on ne va pas la croiser trop tôt. Merci Marion Calais, il est 7h10 sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.
On l'a dit, le déplacement du jour du président de la République est politique, mais pas seulement. Politique parce qu'il poursuit son tour de France sur les terres de Xavier Bertrand dans l'Aisne, à 3 jours du premier tour des régionales. On va en parler dans le journal de 8h tout à l'heure. Mais c'est aussi un déplacement, nous l'avons dit, sur le thème de la langue française. Le chantier de la Cité internationale de la langue française à Villers-Cotterêts, on vient d'en parler. Visite de la maison natale de Jean de La Fontaine. Déplacement en compagnie de Fabrice Lucchini. Le président et la langue française, c'est au programme du tête-à-tête Europe Matin avec l'académicien Jean-Marie Roire, qui n'est pas tendre hein, ces derniers temps avec le président. Tout de suite, l'éclairage éco. Nicolas Barré, juste avant le regard international de Vincent Hervouet.
Yes. Le retour aujourd'hui en Côte d'Ivoire de l'ancien président Gbagbo, innocenté par la Cour pénale internationale, Abidjan sous haute tension et la réconciliation à l'épreuve.
A tout de suite sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
7h12 sur Europe 1. L'éclairage éco avec Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
Malgré la crise, ou peut-être bien à cause de la crise, vous allez l'entendre, l'esprit d'entreprise ne s'est jamais aussi bien porté en France. Le nombre de créations d'entreprises atteint un record absolu.
Oui, c'est un chiffre jamais vu en effet que vient de dévoiler l'INSEE. On a recensé 1 million de créations d'entreprises en France sur les 12 derniers mois, un record, vous l'avez dit. C'est un bond de 30% en un an, avec même des hausses plus spectaculaires, de 40% en Île-de-France et dans les Hauts-de-France. Alors évidemment, il faut regarder le détail. Les deux tiers de ces créations, ce n'est pas nouveau, ce sont des auto-entrepreneurs, donc des personnes qui tentent de créer leur propre emploi, parfois, il faut le dire, parce qu'ils ont perdu un emploi salarié plus régulier.
Le cas typique, ce sont les livreurs.
Oui, actuellement en France, une immatriculation d'entreprise sur 6 se trouve dans ce secteur de la livraison. C'est typiquement une personne qui se met à son compte pour travailler avec des plateformes de type Deliveroo ou Uber. Il est vrai qu'avec la fermeture des restaurants, la demande de livraison a explosé et les emplois avec. Cela étant, le phénomène ne se limite pas à cela. Depuis 4 ans, la courbe des créations d'entreprises est en nette hausse en France et ça ne touche pas seulement les auto-entrepreneurs. Le mouvement profite aussi à des entreprises de taille intermédiaire, c'est-à-dire de plus de 250 personnes et 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. On en recense près de 6 000 en France, 1 000 de plus qu'il y a 10 ans.
Alors tout l'enjeu, au-delà des créations d'entreprises, c'est de les faire grandir.
Oui, alors c'est d'abord qu'elles survivent. Une entreprise créée aujourd'hui a 60% de chances d'être toujours là dans 5 ans. Il y a des aides pour cela, pour les accompagner. Puis c'est effectivement de les faire grandir. La force du tissu économique allemand, ou alors on le dit moins italien, c'est le nombre élevé de ces ETI, entreprises de taille intermédiaire, agile, résiliente, exportatrice. Nous en avons proportionnellement moins que chez nos deux voisins. Mais ça bouge et ce qui est encourageant, eh bien c'est ce nombre. Dans ce million d'entreprises nouvelles depuis un an, il y en a qui, dans 5 ans ou 10 ans, auront acquis une taille respectable et créé de nombreux emplois. Ce qui envoie un message d'optimisme.
Merci Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Il est 7h14 sur Europe 1. Le regard international, Vincent Hervouet. Bonjour Vincent.
Bonjour Mathieu, bonjour Nicolas, bonjour à tous.
Le retour de Laurent Gbagbo, l'ancien président en Côte d'Ivoire, 3 mois après avoir été acquitté par la Cour pénale internationale.
Alors c'est pas le retour de Monte-Cristo, officiellement il faut parler de réconciliation, pas de revanche à prendre. Laurent Gbagbo rentre chez lui après un long exil et ses partisans sont priés de se réjouir sans colère dans un esprit de paix. Et ils sont déjà le long du parcours pour fêter leur messie qui n'a pas encore décollé de Bruxelles. Ça promet d'être chaud. Tout est planifié. Et d'abord, les égards, très importants les égards. Ce n'est pas un réprouvé qu'on attend, mais un ancien président, le tapis rouge, le pavillon d'honneur, la présence de ministres au pied de l'appareil, le protocole, la sécurité, le cortège d'un président et la foule en liesse avec les t-shirts à l'effigie du patron, les culottes, les boubous. La vie d'un chef d'État, quelle ivresse.
Laurent Gbagbo doit savourer cette journée.
Eh bien, c'est pas sûr. Michel Aoun ruminait dans l'avion qu'il ramenait d'exil et il faisait encore la tête en s'adressant aux millions de Libanais qui l'acclamaient sur la place des martyrs. Laurent Gbagbo ne sera jamais vengé des 10 ans qu'il vient de perdre dans les méandres de la Cour pénale internationale. Il n'a pas été condamné pour crime contre l'humanité, mais il a passé 8 ans derrière les barreaux et 2 ans en résidence surveillée. L'épreuve enrichit sa légende. Les peuples aiment que leurs dirigeants souffrent. Quoi qu'il ait fait, il a payé. Son retour mis en scène doit effacer l'image de sa déchéance qui a fait le tour du monde il y a 10 ans, dans une suite de l'Hôtel Ivoire, entouré de soldats qui venaient de l'extirper du palais. Elle bousculait, sa chemise déchirée, son visage tuméfié. Il était en nage et hagard.
Est-ce qu'il va refaire de la politique ?
Il n'a jamais cessé, disent ses partisans. Les plus militants le voient déjà candidat à la présidentielle de 2025. Il va prendre la parole au siège du parti aujourd'hui. Comme il parle peu, on l'écoutera. Surtout ses adversaires qui lui reprochent d'avoir jamais demandé pardon. Et les familles aussi des 3000 morts tués après l'élection de 2011, quand il s'accrochait au pouvoir. Cela exige un peu de pudeur. Il va parler, on verra où il en est. S'il rentre pour se réconcilier, on saura si Pacboé est arrivé à bon port.
Merci Vincent Hervouet, le regard international tous les matins. Et je voudrais trahir un petit secret pour une conversation pendant la pub. Parce que vous m'avez entendu annoncer la venue de Jean-Marie Roire à 7h40, le tête-à-tête Europe Matin et la défense de la langue française. Et Vincent Hervouet, vous soulignez, c'est vrai, et c'est déjà expérimenté dans l'Oise, les cartes d'identité version bilingue qui arrivent en anglais.
Une curiosité dans un pays, c'est pas le passeport, c'est la carte d'identité.
Je poserai la question à Jean-Marie Roy. Alors, y a toujours en français, hein, c'est bilingue. Et après, sur le côté anglais, après le Brexit, on peut aussi se poser la question. Merci Vincent Hervouet. Il est 7h17 sur Europe 1. Dans un tout petit instant, l'édito sport de Virginie Fulpin.
Tape dans ton ballon et tais-toi. Qu'est-ce qu'on a le droit de dire quand on est joueur de football, qu'on joue l'Euro et que tout le continent vous regarde? Bah, pas grand-chose en fait.
Notre rendez-vous d'histoire juste après avec Stéphane Bern. À tout de suite.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
Il est 7h20 sur Europe 1, l'heure de l'édito sport de Virginie Fulpin. Bonjour Virginie.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
L'Euro de foot a commencé il y a 6 jours. L'Italie a battu la Suisse 3-0 hier soir et est déjà en 8e de finale. Un adversaire de taille pour les Bleus. Mais pour vous, les footballeurs ont d'autres adversaires. Virginie, tous ceux qui leur disent, en gros, joue et tais-toi.
Qu'est-ce qu'un footballeur a le droit de dire, de faire, pendant que tout le continent le regarde ? Pas grand-chose. Ces derniers mois, on a vu qu'ils avaient de plus en plus envie et besoin de s'exprimer sur les sujets de société. Mais ça chiffonne beaucoup de gens qui aimeraient voir le stade et ses dieux rester une grande muette. Vous avez vu la levée de boucliers en France quand les Bleus ont dit qu'ils voulaient mettre un genou à terre pour lutter contre le racisme. On leur répond de rester à leur place, de taper dans le ballon, de garder la politique hors du stade et de laisser faire les grandes personnes, en gros. Les Bleus ont renoncé. Mais ce que je trouve gênant, c'est qu'ils sont, eux, régulièrement confrontés au racisme dans les stades. Les instances les ont autorisés à s'agenouiller avant un match. Mais ça ne passe pas dans l'opinion publique. Que vous soyez favorable ou opposé à ce geste, peu importe, les joueurs devraient avoir le droit d'avoir leur propre avis et de l'exprimer. Là, ils sont en permanence pris entre le marteau et l'enclume. Pourquoi tu veux t'exprimer sur ce sujet et sur tel autre sujet? Alors pourquoi t'as rien dit? Ce sont des joueurs de football, ils représentent leur pays, oui, mais ce sont aussi des hommes, des citoyens, pas forcément des enfants à qui on fait la leçon en permanence.
Alors Cristiano Ronaldo a aussi été raillé quand il a repoussé des bouteilles de coca devant lui en conférence de presse.
Ça, c'est le meilleur exemple
de la... Un sponsor de la compétition, hein, rappelons-le.
Évidemment, il faut le rappeler, c'est important. C'est le meilleur exemple de la puissance du discours d'un footballeur star. Cristiano Ronaldo lève le petit doigt et ça fait caisse de résonance dans le monde entier. Là, le Portugais a enlevé ses deux bouteilles de coca devant lui et dit qu'il fallait boire de l'eau. Résultat, l'action de coca a dévissé en bourse et la marque a perdu 4 milliards d'euros en deux temps trois mouvements. Ce qui est assez vertigineux et j'ai l'impression que ça fait peur parce que Ronaldo a aussitôt été décrié. Ah ouais, ça le gênait moins quand il était plus jeune de signer des gros contrats pour faire de la pub pour de la malbouffe. Soit, mais il n'a pas le droit d'avoir mûri, d'avoir un autre rapport à l'alimentation peut-être. Il n'a pas appelé à la révolution, il a juste dit que c'était mieux de boire de l'eau. C'est ça, on devrait peut-être...
Il a même juste dit « agua ». Voilà. Un truc comme ça de mémoire.
Oui, je ne voulais pas faire d'imitation, je vous laisse, c'est plus votre truc. Alors, je sais bien que ce n'est pas aussi simple que ça, que Coca, on le disait, est un sponsor de l'euro et on ne balait pas un sponsor d'un revers de la main. Mais si Ronaldo n'a pas envie de jouer les hommes sandwich pour tout et n'importe quoi, ça peut peut-être s'entendre aussi. Ça mérite en tout cas une réflexion sur le sponsoring. Mais pour ça, il faudrait admettre qu'un joueur de foot a le droit d'avoir des convictions et qu'il ne fait pas que taper dans la balle, oui. Ça a l'air compliqué.
Dans le football, laissons aussi parler les footballeurs. À quoi ça sert un footballeur? Tiens, ça pourrait être une question de l'épreuve de philo.
À cause de... À quoi?
Aujourd'hui, à quoi ça sert? Merci, j'arrête là. Virginie Fulpin, c'était l'édito sport, il est 7h22. Et nous retrouvons Stéphane Bern pour notre rendez-vous d'histoire. Bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Quand vient le moment de souper, il y a deux écoles. Potage maison et verre d'eau. Soit on est invité chez les Béliards et là, c'est défilé de poulard, de veau, de rôti, de saucisse,
on vous a
de pâté de serre, de porcelet. Bref, c'est comme dans Les Visiteurs avec Christian Clavier et Jean Reno, on fait ripaille.
Où sont les poulards? J'ai faim. Où sont les fèves, les pâtés de serre? Y a pas quelques soissons avec de la bonne soivre, un porcelet, quelques signes blancs bien poivrés? Ces amuse-bouches m'ont mis en appétit.
Faire ripaille, j'imagine que ça date, oui, des visiteurs du Moyen-Âge.
Alors en fait, les origines sont néerlandaises. Il existe le verbe ripen, qui a donné en français riper, qui signifiait gratter. Au XVIe siècle, on employait la formule « faire ripaille chez quelqu'un » pour dire qu'on se faisait inviter et qu'on profitait de la générosité de nos hôtes. On retrouve l'idée de gratter un repas. D'ailleurs, souvent, c'était les soldats qui faisaient ripaille chez les gens. Et on imagine bien qu'on n'osait pas trop protester quand les militaires s'invitaient eux-mêmes. Ces derniers, souvent en position de force, n'hésitaient pas à en abuser en finissant tous les plats et en raclant les écuelles. On retrouve encore l'idée de gratter, donc. Une autre origine est possible et complémentaire. Au XVe siècle, l'ancien pape Amédée VIII est inconsolable, fraîchement veuf. Il se retire près du lac Léman. Oui, le pape veuf, ça me fait toujours sourire.
Oui,
dans un
prieuré
avec un programme de méditation et de chasteté. Fort heureusement, on peut y faire également bombance de façon orgiaque. Le lieu est réputé pour ça. C'est le château de Ripaille à Thonon-les-Bains, un lieu que vous pouvez visiter de nouveau depuis le 1er juin. On peut même en louer des parties et y faire ripaille. Pourquoi se priver ? Aujourd'hui, en Espagne, on dit « entripar », se remplir les tripes. Au Brésil, c'est « encher a panza », se remplir la panse.
Toujours les tripes.
Allez, avant de faire ripaille, souvenez-vous de ce que disait Coluche. Chez ma grand-mère, avant de manger, tout le monde faisait une prière. Faut dire que la bouffe était dégueulasse.
Vous venez dîner à la maison, vous n'êtes pas vegan ni allergique, tout va bien ?
Non, j'ai aucune allergie alimentaire, tout va bien.
Eh bien, nous ferons ripaille. Mais d'abord, 16h, l'heure du goûter.
On réunit le poète italien Dante et sa Commedia, qui deviendra Divine Comédie, entre l'enfer et le paradis. Puis la divine Sarah Bernhardt, la première comédienne star, et la plus célèbre drag queen des années 70, la plus trash aussi, Divine. Leur point commun ? Divine, vous l'avez compris. Ils ont joué une divine comédie.
À tout à l'heure, 16h. À 7h25, je vous donne le programme. Laurent Cabrol arrive, il s'installe, ses cartes à la main, la météo, les températures. Le journal de Sophie Hachène à 7h30, à tout de suite. Laurent Cabrol avec nous pour la météo.
Il y a de la vigilance dans l'air, des vigilances pour fortes pluies, orages, etc. Mais ça s'en sent, hein. Attention, ces orages sont parfois très, et seront parfois très violents. Ils l'ont été déjà cette nuit, il y en a eu un beau sur Paris à 4h du matin, il y en a eu aussi du côté de Deauville ou de Dieppe, mais les orages de ce soir seront plus méchants parce que les températures seront beaucoup plus élevées. Donc prudence, la Haute-Garonne, la Haute-Pyrénées, le Gers, l'Ariège, les Pyrénées-Atlantiques, les Landes, la Gironde, qui sont des départements en vigilance orange par Météo France. Mais enfin, ici, c'est... Les orages sont vraiment dangereux en tout lieu. Tout le sud-ouest, bien sûr, mais l'Île-de-France également. Hein. Il pourrait être méchant sur les Hauts-de-France et le Grand Est, parce que les orages dans certains secteurs ont eu lieu ce matin et ils auront lieu aussi dans le courant de la journée et surtout dans la soirée. Donc, vous voyez que peu de régions y échapperont. S'ils vont y échapper, le littoral méditerranéen, une bonne partie du Midi-Pyrénées, la partie où le vent d'automne va souffler, le Massif central et la région lyonnaise, où là nous avons une vigilance canicule parce qu'il fait très très chaud ce matin 24, cet après-midi 34. Et ça fait 3 jours que ça dure, et donc là la canicule est bien et bel et bien réelle sur la ville de Lyon. Voilà, les températures maximales, et eh bien pour les autres régions, entre 22 et 27 degrés sur grosso modo la moitié nord, entre 31 et 36 sur les régions du sud.
Merci beaucoup Laurent Cabrol, très bon réveil à toutes et à tous, il est 7h29, Sophie Hachène est avec nous, bonjour Sophie.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Un nouveau journal sur Europe 1.
Et c'est une histoire qui mériterait d'être racontée par Christophe Onglat, la résolution d'un cold case 30 ans après, une mère et sa fille retrouvées assassinées près de Grenoble. Dans ce journal également, fini le masque à l'extérieur à partir d'aujourd'hui. Dimanche, c'est au couvre-feu qu'on pourra enfin dire au revoir. Anne Hidalgo continue d'envoyer des signes sur sa potentielle candidature à la présidentielle de 2022. Et puis une alliance étonnante entre Google et le numéro 1 du luxe LVMH.
Juste après ce journal, La Touche Âme, c'est le regard décalé de Bertrand Chameroy sur l'actualité. Le tête-à-tête Europe Matin avec le romancier, l'académicien Jean-Marie Rouard. L'édito politique Nicolas Bétou.
Depuis ce matin, on peut se promener dehors sans masque. C'est bon pour le moral, mais c'est bon aussi pour une certaine campagne électorale.
Et puis enfin, avant 8h, Nicolas Canteloup qui conseille à sa façon l'invité politique de la matinale. Aujourd'hui, Sonia Mabrouk reçoit Valérie Pécresse. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous êtes sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
C'est un véritable rebondissement dans une enquête jamais résolue. Il y a 28 ans, près de Grenoble, une mère et sa fille étaient retrouvées égorgées à leur domicile. Le dossier n'a jamais été refermé. Et cette semaine, le père de famille a été arrêté, confondu par des traces ADN indétectables à l'époque. Jean-Luc Boujon.
Tous les scellés du dossier rouvert il y a quelques mois ont été réexaminés à la lumière des nouvelles techniques du laboratoire de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie qui ont mis en évidence les traces de sperme du père de famille sur le pantalon de sa fille, explique le procureur de Grenoble, Éric Vaillant.
Avant, donc, il fallait des quantités supérieures de sperme ou de sang pour trouver de l'ADN. Aujourd'hui, on peut découvrir donc de l'ADN dans des traces beaucoup plus fines.
L'alibi du père, un voyage en Roumanie, son pays natal auprès de sa famille pour les fêtes de fin d'année, jugé très solide à l'époque, a donc lui aussi été réexaminé. Et les enquêteurs ont eu la conviction que l'homme avait pu faire un aller-retour très rapide entre les deux pays pour commettre son crime. Marianne Marinescu, 72 ans aujourd'hui, vient donc d'être arrêtée. Devant les gendarmes, il a simplement expliqué qu'il ne se souvenait de rien. Mais cette révélation a bouleversé la sœur de la mère de famille assassinée, explique son avocat, maître Hervé Gerbi.
Toutes les hypothèses ont pu tourner dans la tête de mes clients. Celle qui se présente aujourd'hui est la pire de toutes. Parce qu'ils ont, pendant ces 28 années, reconstruit une vie familiale autour de celui qui est aujourd'hui mis en cause. Les relations ont toujours été soutenues.
Le père de famille, qui a choisi jusqu'à présent de garder le silence, a été mis en examen et incarcéré. Grenoble, Jean-Luc Bougeon, Europe 1.
À la une ce matin, les Français vont pouvoir respirer un peu, terminer le masque obligatoire à l'extérieur.
Oui, sauf dans les lieux de regroupement comme les marchés, les files d'attente ou les tribunes de stade, par exemple. Autre bonne nouvelle, la levée du couvre-feu dès dimanche. Mais attention à ne pas relâcher la vigilance trop tôt, rappelle sur Europe 1 ce matin l'infectiologue Benjamin Davido.
Ces mesures de couvre-feu, elles s'adressaient principalement aux plus jeunes. Bientôt, il va y avoir la fin du lycée, du baccalauréat, de tout un tas d'épreuves pour les étudiants. Ils vont avoir envie de se réunir et que lorsqu'on est à l'extérieur, à un moment donné, s'il n'y a pas de couvre-feu, eh bien, on va se retrouver à l'intérieur. Dans cette situation, c'est là où le masque va rester d'actualité. Ça ne veut pas dire que parce qu'il n'y a plus ou pas de restrictions, qu'il ne faut pas faire attention et que le virus est toujours là et donc que les gestes barrières et les mesures de distanciation s'appliquent toujours ainsi que le masque en intérieur. Et j'irai plus loin que le masque en extérieur reste d'actualité pour les situations de regroupement. Et typiquement, lorsqu'on va être dans une file d'attente, par exemple, mais clairement, il n'y a pas de raccourci pour penser que ce qu'on a vu ces derniers jours aux Invalides, c'est-à-dire pas de couvre-feu, pas de masque en extérieur, va s'appliquer à partir de la semaine prochaine. Ça serait une grave erreur de penser ça.
Benjamin Davido avec Victor Dolande. Le coup d'envoi du bac ce matin pour plus de 525 000 lycéens des filières générales et technologiques. Avec la philo, seule épreuve écrite maintenue cette année.
La politique, à présent, est comme un petit air de campagne pour Anne Hidalgo.
La maire de Paris continue son tour de France pour rencontrer les élus et s'inspirer des initiatives locales. Étape importante de cette sorte de pré-campagne, le 12 juillet prochain à Villeurbanne. Et si Anne Hidalgo n'est pas encore officiellement candidate pour 2022, elle semble tout de même passer à la vitesse supérieure. Hélène Terzian.
Les invitations sont lancées. Dans l'entourage d'Anne Hidalgo, on ne s'en cache pas, le rendez-vous doit donner un coup d'accélérateur. Il s'agit de mettre des propositions sur la table, inspirées des idées que la maire de Paris a glanées sur le terrain. Et même si elle veut en faire un moment solennel, il ne faut pas s'attendre ce jour-là à une déclaration de candidature, plutôt une démonstration de force avec tout son réseau de maires socialistes, comme Cédric Van Stevendel à Villeurbanne, où se tiendra la réunion.
Ça me semble quelqu'un qui a tout à fait le potentiel pour être candidat. Date au présidentiel de 2022. Il lui est arrivé d'exprimer quelque chose qui me semble marquer les esprits. Elle dit « Et si l'équipe de France des maires faisait un certain nombre de propositions ?» Donc, si Anne Hidalgo veut être la capitaine de France de l'équipe des maires, moi je suis d'accord pour être dans son équipe.
Une équipe soudée avec aux avant-gardes la maire de Lille, Martine Aubry, le maire de Montpellier, Michael Delafosse. Cette réunion aura pour vocation d'envoyer un signal avant que les gens partent en vacances. Car avec guère plus de 6% dans les sondages, Anne Hidalgo est encore très loin d'être qualifiée pour la finale.
Hélène Tardian du service politique d'Europe 1.
Une alliance étonnante. Le groupe LVMH s'associe à Google pour mieux gérer ses données.
Ouais, les deux géants n'ont a priori rien en commun et pourtant ils viennent de signer un partenariat stratégique et technologique. Le boss du numérique et le numéro un mondial du luxe s'allient sur le cloud et l'intelligence artificielle. Alors Clément Le Saffre, comment LVMH se retrouve dans ce secteur ?
Eh bien, c'est le Covid qui a poussé le groupe de Bernard Arnault dans les bras de Google. Avec la fermeture des magasins, les ventes en ligne ont explosé. Ventes qui s'accompagnent de tonnes de données précieuses sur les habitudes d'achat des clients. À condition, bien sûr, de savoir les traiter. Alors, grâce à ce partenariat, LVMH va s'appuyer sur les compétences et les infrastructures de Google dans le cloud pour, par exemple, optimiser sa chaîne de production. Franck Lemoyle, directeur du numérique de LVMH.
Il y a à peu près 3 ou 4 ans, quand on avait un signal de vente, c'est-à-dire des produits qui étaient vendus dans un certain nombre de magasins, pour remonter les signaux de vente à nos ateliers de production, il nous fallait en moyenne 17 à 20 jours. Aujourd'hui, en travaillant ces données avec des algorithmes, avec l'intelligence artificielle, en 2-3 jours, on est capable d'ajuster les productions de nos ateliers.
Le groupe de luxe entend également utiliser les données pour proposer des offres encore plus personnalisées à ses clients en fonction de leurs habitudes d'achat ou de leur localisation géographique, sous réserve évidemment que les clients autorisent explicitement LVMH à exploiter leurs données.
Clément Le Saffre, spécialiste nouvelles technologies sur Europe 1. La Chine vient d'envoyer sa première mission habitée vers la station spatiale chinoise. Trois taïkonautes ont décollé du désert de Gobi la nuit dernière. Ils passeront 3 mois dans le premier module de la station. Du côté de la station spatiale internationale cette fois, on vous en parlait hier dans ce journal. Mission quasi réussie pour Thomas Pesquet. Le Français devait fixer un panneau solaire sur l'ISS avec un autre astronaute américain. Mais suite à un problème de combinaison de ce dernier, les deux hommes ont dû regagner la station. Ils recommenceront l'opération dimanche.
Merci beaucoup Sophie Echen. C'était le journal de 7h30 sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.
C'est le rendez-vous politique ce matin. Valérie Pécresse répondra aux questions de Sonia Mabrouk. À 8h15, la présidente de la région Île-de-France candidate à sa réélection. Dans un instant, la langue française, le président de la République et son rapport à la langue, la promotion des langues régionales aussi. L'académicien Jean-Marie Roire, invité du tête-à-tête Europe Matin. Mais d'abord, la Toucham, le regard décalé de Bertrand Chameroy sur l'actualité. Bonjour Bertrand.
Bonjour Mathieu, je me fais du souci pour Jean Castex. Il a pris la parole hier pour annoncer des bonnes nouvelles. Ça lui ressemble pas.
À tout de suite sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
7h39 sur Europe 1, l'heure de la Toucham, le regard de Bertrand Chameroy sur l'actualité. Bonjour Bertrand.
Bonjour Mathieu, j'en suis encore tout ému, j'ai un peu de mal à réaliser ce que je vais vous dire. Je vous jure, j'ai l'impression que la France vient de remporter l'euro. Dans la série Les grands phénomènes paranormaux, après le secret des pyramides et le mystère de la vie extraterrestre. Hier, mardi 16 juin 2021, Jean Castex a pris la parole derrière un pupitre pour nous annoncer... des bonnes nouvelles. On n'avait plus l'habitude. Lui non plus d'ailleurs, je pense. Il devait être tout déboussolé. Comment je fais? Mais je peux encore dire quand même « à compter de... » Oui, monsieur le Premier ministre. Sauf que derrière, vous annoncez des trucs cool. Message reçu, il s'est complètement lâché. Vous remportez la fin du port du masque en extérieur, non pas vendredi, non pas demain, mais à compter d'aujourd'hui. Et ce n'est pas tout, j'ajoute la levée du couvre-feu dimanche. Et enfin, parce que je suis commerçant et que je suis dans un bon jour, je vous offre en plus ce canapé d'angle dans le cuir de vachette. Ah, quel plaisir. La fin du port du masque en extérieur, je ne sais pas si vous vous réalisez Mathieu, nous allons revoir des mentons d'inconnus, des dents, des lèvres, des nez, mais également connaître quelques surprises. Vous savez, cette personne que vous croisiez dans la rue tous les jours depuis des mois, masquée, vous êtes un peu imaginé à quoi elle pouvait ressembler, à quoi pouvait ressembler le bas de son visage depuis tout ce temps. Vous allez enfin découvrir si votre esprit visait juste. La fin du masque à l'extérieur, c'est comme ouvrir le rideau du Big Deal. On ne sait pas trop ce qu'on va trouver derrière. Soit c'est la voiture, soit c'est la boîte de Rollmops. C'est qui tout double. Ah tiens, les incisives se chevauchent. C'est un poireau. C'est marrant, je t'imaginais pas comme ça. Puis la fin du masque dehors signifie également que vous ne pourrez plus chanter moi Lolita en playback incognito avec votre casque sur les oreilles, Mathieu. Ouais, j'ai mes sources. Alors évidemment, des annonces de Jean Castex n'en seraient pas vraiment sans les traditionnelles questions métaphysiques qui en découlent. Hier n'a pas dérogé à la règle. Le Premier ministre a annoncé la levée du couvre-feu à compter de dimanche 20 juin. Cela signifie donc qu'il prendra fin samedi 19 à minuit, dans la nuit de samedi à dimanche, dans la nuit de dimanche à lundi, ou que dimanche, le couvre-feu prenant fin, il ne durera qu'une heure, de 23h à minuit. Pas évident. Allez, je ne vais pas durer le suspense plus longtemps. La bonne réponse est dimanche 20 juin, 6h du matin. Donc dans les faits, le dernier couvre-feu sera la veille, le samedi à 23h. Filez-moi un aspégique. Bon, il aurait pu le préciser d'emblée, hein, mais je pense que ça l'amuse de nous voir galérer après les annonces. Allez, bonne journée à tous. Et si vous avez un coup de mou, pensez à cette chose incroyablement folle que nous allons pouvoir faire à compter de dimanche soir, marcher dans la rue, 23h01, le visage nu.
La Toucham, tous les matins à 7h40, bravo Bertrand. C'est sur Europe 1, on vous retrouve à 10h tout à l'heure avec Philippe Vandel dans Culture Média, il est 7h42.
Europe Matin, le 7-9.
Déplacement politique aujourd'hui. Le président de la République est dans l'Aisne, terre de Xavier Bertrand, à 3 jours du premier tour des régionales. Mais une promesse linguistique également. La maison natale de Jean de La Fontaine. Le chantier de la Cité internationale de la langue française. La lecture érigée au titre de grande cause nationale pour l'année à venir. Mon invité est écrivain, auteur de « Ce pays des hommes sans Dieu », romancier, essayiste, membre de l'Académie française, Jean-Marie Roire.
Le tête-à-tête.
Mathieu Béliard.
Bonjour Jean-Marie Roire.
Bonjour.
D'abord, et ça aurait presque pu être une question pour le bac philo aujourd'hui, la langue française est-elle un outil politique ?
Bien sûr, elle l'a toujours été, mais elle est beaucoup plus que cela. Elle est en même temps l'expression de l'âme de la France.
Et cette âme de la France, ça va bien au-delà de la politique politicienne. C'est quelque chose d'essentiel, ça fait partie de l'identité profonde de la nation française.
Vous devez vous réjouir de voir un président de la République bâtir une cité internationale de la langue française, de voir qu'il promeut la lecture comme, je cite Le Figaro ce matin, « base de la citoyenneté, de l'émancipation comme un levier de la lutte contre l'exclusion ».
Écoutez, je me réjouirais si je n'étais pas profondément déçu par Emmanuel Macron sur le plan linguistique, justement. Vous savez, moi j'ai beaucoup d'affection pour lui, et beaucoup d'estime. D'ailleurs, j'ai reçu une lettre de lui hier à propos de mon dernier livre. Donc nous avons des relations qui sont plutôt bonnes et je trouve très séduisant. Je trouve que c'est un homme très remarquable à bien des aspects. Mais il faut bien reconnaître que son règne va s'accompagner de la plus grande déchéance de la langue française que l'on a connue, avec l'invasion du franglais. Qu'est-ce qu'il a fait pour essayer d'améliorer la situation? Absolument rien.
Simplement, ça n'a pas commencé sous Emmanuel Macron. Je voudrais juste préciser que ça n'a pas commencé en 2017, le franglais.
Vous permettez, mais bien sûr, mais ça s'est accentué considérablement. Et vous savez, ça fait plus de 50 ans que Étienne Amble avait écrit son livre sur le franglais. Mais vous pouvez remarquer qu'à la faveur de la pandémie, maintenant les clusters, les pick and collect, ce langage, ces néologismes, et maintenant les tracings et un certain nombre de mots franglais, la langue est en train de mourir.
Nous parlions de la Startup Nation hier matin.
C'est plutôt comique de voir qu'on va honorer la langue française alors qu'on passe son temps à la détruire. Qu'est-ce qu'a fait Emmanuel Macron pour faire respecter la langue française?
Mais on n'arrête pas de le présenter comme un homme de lettres, on le brocarde presque parce qu'il réhabilite d'anciens mots. Ça n'est pas un ambassadeur de notre langue, Jean-Marie Roir?
Non, mais attendez. je vois pas en quoi c'est l'ambassadeur de notre langue. Pour l'instant, il participe à la destruction de notre langue. C'est le chef de l'État. Le chef de l'État est là pour faire respecter la langue française. Et je vous dis, les ministres, regardez comment parlent les ministres. Savez-vous comment s'appelle la Sorbonne aujourd'hui? Elle s'appelle Sorbonne Université. Sorbonne Université, c'est du franglais. Alors, ne me dites pas que ce gouvernement, je ne dis pas, en effet, c'est pas le seul, et ça fait bien longtemps qu'ils ont participé à la dégradation de la langue française, mais enfin, moi, en tant qu'écrivain, et a fortiori en tant qu'académicien, parce que c'est quand même le rôle de l'académie de protéger la langue française, c'est notre mission, eh bien je dis, c'est effroyable.
Je ne vous pose pas la question, Jean-Marie Roir, de la carte nationale d'identité version bilingue, nous en parlions avec Vincent Hervouette il y a une demi-heure, ça doit vous agacer du coup?
Mais bien sûr, c'est lamentable. Mais ce n'est qu'un élément dans un ensemble, si vous voulez, vraiment de non-respect de la loi Toubon. Et je pourrais vous donner d'autres exemples. Vous savez, c'est l'aéroport de Lorraine, qu'on a appelé, qu'on a baptisé Lorraine Airport. Vous voyez? Mais c'est tous les jours, vous voyez, de nouveaux mots franglais. Et si encore il y avait de la part du gouvernement un désir d'arrêter les choses? Mais non, on ne fait que les ministres eux-mêmes parlent franglais.
Alors, le choix de Villers-Cotterêts pour ce déplacement et pour la cité de la langue française n'est évidemment pas un hasard. L'ordonnance de Villers-Cotterêts, 1539, signée de la main de François Ier, c'est le plus vieux texte législatif encore en vigueur. Ce texte consacre la primauté du français dans l'administration. Je voudrais évidemment vous parler des langues régionales, Jean-Marie Roir. Au mois de mai, le Conseil constitutionnel a censuré l'enseignement immersif de ces langues, qui consiste, pour faire simple, à donner cours en basque, corse, breton, alsacien. Alors on sait que Jean-Michel Blanquer n'est pas très client de cette disposition. Monsieur Macron et Monsieur Castex continuent de promouvoir ces langues régionales. Elles font aussi partie de notre patrimoine, de notre richesse culturelle, Jean-Marie Roir.
Bien sûr. Mais vous savez, moi j'ai une relation très affectueuse avec les langues régionales. Je trouve que c'est très bien que les gens continuent à parler la langue de leur pays, bien entendu. Je crois que la disposition du Conseil constitutionnel était une disposition de bon sens. C'est-à-dire que c'était contre l'immersion, c'était pour préserver, la langue française qui est quand même la langue qui est dans la Constitution, hein, c'est la langue française. Donc moi je trouve que c'était une très bonne mesure, mais c'est pas pour ça que je suis aussi dans les langues régionales. Au contraire, je trouve que, d'ailleurs, les langues régionales ne sont pas du tout une menace contre le français. D'ailleurs, vous pouvez voir, moi je vois en Corse et en Bretagne, les gens peuvent parler leur langue leur locale et en même temps parler un très bon français. C'est pas la question. La question, à mon avis, c'est pour l'État. Voilà. Vous savez, les langues, la langue a toujours été le vecteur d'une forme de nationalisme, donc l'État peut, lui, considérer qu'il peut y avoir un danger de mouvement nationaliste à la faveur d'une langue. Mais, en l'occurrence, moi, je trouve que la disposition maintenant que le Conseil d'État, après, le Conseil constitutionnel a pris sa décision, je trouve que les choses sont tout à fait dans l'ordre.
Contre, l'enseignement immersif dans une langue régionale, on va rappeler aussi que l'ordonnance de Villers-Cotterêts consacre le français, mais elle appuie aussi le pouvoir monarchique, hein, une époque où peu de sujets du roi parlaient le français. On pourrait évoquer tous nos débats sur la décentralisation, mais ce serait encore un autre débat. D'un mot, pour terminer, Jean-Marie Roire, je vous cite dans une interview. Vous dites que le français tel que nous l'avons aimé et parlé sera une langue morte en 2030. C'est
oui.
Demain.
Oui, oui. Mais oui, parce que au train, et je dis ça avec beaucoup de tristesse, parce que moi j'adore la langue française et je trouve que cette langue est en même temps la traduction des valeurs françaises, des valeurs de liberté qui sont très très anciennes. Vous savez, l'abolition de l'esclavage en France, ça date de 1315, c'est un édit de Louis de Hardy. Le sol de France affranchit l'esclave qu'il touche. Vous voyez, c'est toutes ces valeurs de la France qui vont disparaître, parce qu'à partir du moment où une langue s'abâtardit, eh bien ce sont les idées qui vont avec elle qui s'abâtardissent. Et vous savez, c'est ce que disait Camus. Camus disait « abîmer la langue française, c'est ajouter du malheur au monde ». Eh bien, je crois qu'on ajoute beaucoup de malheur au monde en laissant la langue française s'abâtardir et se dégénérer comme elle se dégénère à cause du franglais.
On est d'accord ou pas, mais on a envie de réfléchir à notre belle langue française quand on vous écoute, Jean-Marie Roire. Merci d'avoir pris quelques minutes ce matin pour Europe 1 à l'occasion de cette journée, de ce déplacement d'Emmanuel Macron. J'ajoute, si je puis me permettre, que peut-être que certains élèves de terminale étaient dans la voiture des parents en train d'écouter en allant préparer le bac philo. Je ne connais évidemment pas les épreuves. J'espère que ça pourra leur avoir servi. On verra ça à midi. Merci beaucoup, Jean-Marie Roire, académicien, d'avoir été en direct avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Ce pays des hommes sans Dieu aux éditions Bouquin. 7h50 sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.
À suivre l'édito politique, Nicolas Bétou. À tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
7h53 sur Europe 1. L'édito politique de Nicolas Bétou, directeur du journal L'Opinion. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
Vous revenez sur l'annonce par Jean Castex de la fin du couvre-feu et du port du masque en public.
Oui, oui Mathieu. Est-ce que vous connaissez le pragmatoralisme ?
Non.
Non, je m'en doutais un peu. Bon, je vais vous dire. C'est un concentré de pragmatisme et d'électoralisme. C'est un produit qui peut être très utile sur le plan politique puisqu'il allie deux valeurs sûres de la vie publique, le bon sens et l'opportunisme. La décision prise hier en Conseil de défense sur le couvre-feu et le port du masque est un exemple parfait de pragmatoralisme. Elle fait du bien au moral, avec ce retour enfin à une vie plus normale, et elle a un petit goût piquant d'opération politique.
Bon, est-ce que ce n'est pas un petit peu un procès d'intention ?
Alors, je vous accorde que beaucoup d'éléments factuels poussaient à ce que cette décision soit prise. Le nombre de patients hospitalisés est en forte baisse, la vaccination a passé le cap des 30 millions de doses injectées, le soleil donne, les soirées d'été sont douces, et dehors, les rassemblements en nombre, impossibles à contrôler, se multiplient. Bref, on lève des contraintes qu'il était devenu difficile de faire respecter, c'est pragmatique. Mais je vous ferai remarquer qu'il y a deux jours seulement, Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé, expliquait qu'il faudrait attendre la fin du mois pour éventuellement arrêter de porter le masque. Information que le ministre de la Santé, Olivier Véran, corrigeait immédiatement pour dire que non, rien n'était acté, que ce pourrait être donc bien plus tard. Eh bien non, ce sera bien plus tôt. J'ajoute que chaque fois qu'une décision forte a été prise en Conseil de défense, elle avait fuité quelques jours avant, histoire de la tester, de voir comment ça réagissait. Et bien cette fois, rien, pragmatisme et opportunisme.
Alors ok, mais sur le fond, est-ce que c'est choquant ?
Non, pas vraiment. Emmanuel Macron est en première ligne depuis le début de la crise sanitaire. C'est lui qui a encaissé directement les effets négatifs des différents confinements, de la privation de liberté imposée aux Français. C'est lui qui a pris le risque en janvier-février de forcer l'avis des médecins pour déconfiner plus rapidement. Bon, c'est lui qui peut maintenant récolter les dividendes politiques de cette bonne nouvelle que constitue la fin du couvre-feu et du port du masque en public. C'est de bonne guerre.
Mais, parce que je sens qu'il y a un mais oui. Je vous connais un peu maintenant.
Mais tout ça survient à 3 jours du premier tour des élections régionales et il n'y a aucun doute que les candidats de La République En Marche, qui se réclament tous d'Emmanuel Macron, pourront en profiter. Et comme le président est déjà accusé d'intervenir directement dans la campagne avec ses déplacements en province, aujourd'hui sur les terres de son adversaire politique principal, Xavier Bertrand, il ne faudrait pas que le pragmatoralisme devienne de l'électoralisme tout court.
Votre édito politique. Alors, simplement, vu qu'il est 7h55, je le dis aux élèves qui vont passer le bac. Si vous utilisez pragmatoralisme dans vos copies, vous êtes gentil, vous citez Nicolas Bétou, directeur du journal L'Opinion et l'édito tous les matins avant 8h sur Europe 1. Il est 7h55 et tous les jours avant 8h, ne citez pas Canteloup. Dans l'épreuve du bac. Nicolas Canteloup conseille à sa façon l'invité politique de la matinale. Aujourd'hui, Sonia Mabrouk reçoit Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, candidate à sa réélection. Et c'est Nadine Morano qui voulait intervenir.
Ouais, salut mon Béliard, salut mon pragmatoraliste Bétou, salut Cabrol, ça va les garçons? Vous kiffez de m'avoir, hein? Bon, écoutez, je suis venu passer une tête parce que je voulais soutenir ma valoche. Elle et moi, tu le sais Bétou, on est les deux seules gonzesses qui comptent chez les Républicains. On est pareil, on est blonde, on est sexy, et puis surtout, on a un sens politique aigu. Pécresse, je vais te dire une chose, elle fait tout ce que moi j'aurais fait. Il n'y a aucune différence entre elle et moi. T'as envie de voir ce que ce serait la France gouvernée par la Nadine? Eh ben tu sais quoi? Tu votes Pécresse, voilà! Ah ben t'as... Justement, si elle... qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle me dit? Attends, jamais ça... Ta gueule! Mais oui, mais non, mais te marre pas bêtement, Béliard. C'est normal, c'est crypté. C'est parce qu'elle veut pas que je dévoile toute sa stratégie non plus. Hein, mais elle peut compter sur moi, Valoche. Moi, je ferai le max pour que tu gagnes, Valoche, voilà.
Je crois que vous avez reçu un nouveau message.
Ouais. Ah mais non, tu vois, celui-là, il est pour toi. Elle dit qu'elle sera en retard, elle est dans les bouchons.
C'est signé ouais, Nicolas qui conseille.
Monsieur Béliard, oui. C'est votre mère préférée, Anne Hidalgo.
Bonjour.
Écoutez, c'est mon petit cadeau pour Valérie Pécresse. Des embouteillages. J'ai lancé des travaux exprès ce matin dans tout le 15e arrondissement. Je n'allais pas la laisser venir me déglinguer sur votre antenne sans réagir, vous le comprenez.
C'est signé Nicolas Canteloup qui conseille à sa façon l'invité politique de la matinale tous les jours. Sonia Mabrouk reçoit Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, candidate à sa réélection. C'est à 8h15, la revue de presque à 8h45. Laurent Cabrol avec nous pour la météo.
Pour nous résumer, je dirais que c'est une journée orageuse, bien sûr, pour tout le monde, puisque déjà, pour tout le monde, pas pour tout le monde, pour des gens qui habitent, nos amis du bassin méditerranéen, du Midi-Pyrénées, du Massif Central, de la région lyonnaise, ont eu peut-être quelques gouttes de pluie, mais elles n'auront pas l'orage ce soir, ou très peu, et alors que partout ailleurs, nous risquons l'orage, y compris sur l'île de France, où ces orages ont éclaté à 4h du matin, mais dans l'ensemble, c'est une journée donc agitée, mouvementée, avec des températures qui restent quand même soutenues, hein, entre 22 et 36 degrés, 36 à Strasbourg, 22 à Caen, en passant par 30 à Paris.
Merci beaucoup Laurent Cabrol.